Merci, Monsieur le Président, mes chers confrères. Avant toute chose, je tiens à vous présenter à tous mes plus plates excuses, sachant que l'usage de l'Académie veut que l'on présente une communication peu de temps après son élection. Je n'ai que trop tardé pour cela. J'aurais bien des raisons à faire valoir pour excuser ce retard, mais elles seraient assurément plus mauvaises les unes que les autres. Alors, l'une des explications, disons, qui permet de justifier un petit peu ce retard, c'est que je me suis dit que quitte à maltraiter les usages de l'Académie, j'allais prendre une liberté supplémentaire. Je me suis imposé, à travers ce choix, qui ne relève pas directement de mes travaux, ni de mon aire de, sur laquelle je travaille habituellement, ni de ma spécialité en tant que cadre de chronologique, puisque je suis plutôt spécialiste de la France méridionale à l'époque moderne, plus particulièrement au XVIIIe siècle, j'ai voulu rendre un humble hommage à trois modernistes de notre Académie, sans lesquels je ne serais certainement pas là, je le crois fermement, aujourd'hui. Je fais référence à mon révéré maître Yves Castan, à celui qui aurait pu devenir un de mon maître, Bartholomé Benassar, si la vie en avait jugé autrement, et à mon professeur, membre du jury, le regretté Michel Taillefer. Et pendant quelque temps, j'ai essayé de trouver un sujet qui fasse le lien entre ces trois grands historiens pour moi. Et comme Bartholomé Benassar est quand même une grande figure de l'histoire de l'Espagne à l'époque moderne, j'ai cherché un liant. Et ce liant, je l'ai trouvé à travers la question de la prostitution. Yves Castan étant le spécialiste de l'histoire des mentalités et de l'ordre public que l'on connaît, et ma dernière discussion avec Michel Taillefer ayant porté sur l'histoire du théâtre à Toulouse et plus particulièrement sur les actrices qui avaient pu passer ici, et notamment nous avions abordé cette question-là des modes de vie. Donc voici pourquoi je vous parle aujourd'hui de la prostitution en Espagne au XVIIe siècle, qui est aussi quand même un domaine que je n'ignore pas totalement, puisque je l'enseigne depuis une bonne quinzaine d'années maintenant à l'université de Perpignan où je suis, et où j'enseigne donc l'histoire de l'Espagne à l'époque moderne, entre autres choses. Alors, lorsqu'on parle justement de cette histoire de l'Espagne à l'époque moderne, on évoque généralement des thèmes baignés de religion. On pense notamment à la contre-réforme catholique, apostolique et romaine. L'Espagne a été l'étendard de cette réforme-là. On parle aussi du baroque. On pense aussi à l'Inquisition ou à d'autres aspects comme les spectaculaires fêtes-dieu avec leurs pénitents. Et on peut aussi évoquer la crise de l'Espagne au XVIIe siècle, voire même sa décadence. De cette Espagne-là, elle est connue. Je ne vous parlerai pas. Je vais vous parler d'un aspect de l'Espagne qui est encore peu connu dans l'historiographie française, même s'il a alimenté, outre-Pyrénées, énormément de travaux. Il s'agit donc de la question de la prostitution durant le XVIIe siècle. Je vais tenter, dans le temps dont je dispose, de vous brosser un tableau général de la question, sans forcément entrer dans tous les détails, ce n'est peut-être pas nécessaire. Et en guise de véritable introduction, un bon historien ferait certainement un tableau de l'Espagne à cette époque-là pour mettre l'accent sur des éléments qui pourraient expliquer l'importance du phénomène dont je vais vous parler, en mettant l'accent sur l'environnement économique et social de l'Espagne, notamment le facteur de décadence, aujourd'hui d'ailleurs très discuté outre-Pyrénées. À défaut de pouvoir entrer dans tous les détails, je vous propose d'aller un petit peu plus rapidement à l'essentiel, en mettant le doigt sur la question des mœurs telles qu'elles se posent à cette époque-là. Et lorsqu'on regarde l'histoire des mœurs et des mentalités espagnoles au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, il y a un phénomène qui apparaît très nettement aujourd'hui dans les travaux des historiens hispanistes français ou espagnols, qui apparaît depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est quelque chose de bien établi, c'est la dépravation des mœurs, qui atteint, selon certains historiens, un niveau peu croyable. Alors, le phénomène est donc maintenant bien connu. On peut en donner une chronologie. On peut dire que, grosso modo, le phénomène émerge dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le règne de Philippe II, entre 1556 et 1598. Il se développe, il gagne une importance sous le règne de Philippe III, entre 1598 et 1622, et il explose littéralement avec Philippe IV entre 1622 et 1665. Ensuite, on s'accorde sur l'idée que soit le phénomène se stabilise, soit il baisse au moins en intensité. Alors, outre la durée du phénomène que je viens de baliser sommairement, si la dépravation des mœurs se pose comme un trait caractéristique de la société espagnole de cette époque-là, c'est aussi parce qu'elle paraît générale. Je veux dire par là qu'elle touche peu ou prou toutes les composantes de la société. Alors, l'aspect le mieux connu, parce que c'est là que l'on dispose du plus d'informations, c'est au sommet de la hiérarchie sociale, à la cour et dans les milieux, on va dire, aisés de la noblesse. Et là, on est frappé de voir que à la cour d'Espagne, et dans donc cette haute société, notamment madrilène, on pourrait prendre aussi toutes les grandes villes, on voit que l'usage pour cette haute société d'avoir des maîtresses, voire des enfants adultérins, est tout à fait admis, voire même revendiqué. Qu'il y a aussi une réelle indulgence à ce propos, qui éclate notamment avec Philippe IV, qui, grosso modo, est l'équivalent de notre régent Philippe d'Orléans. C'est si vrai que les contemporains l'appelaient le roi galant, avec un doux euphémisme. Si on tire cette idée par-delà les maîtresses et les concubines, un des aspects non négligeables, c'est la question de l'homosexualité qui s'affiche littéralement à la cour d'Espagne à ce moment-là, avec une mode notamment des hommes efféminés. Si on descend dans la hiérarchie sociale, on constate que les pratiques d'adultère sont très, très fréquentes pour les hommes, mais aussi, et je crois que c'est pour, en l'état actuel de mes connaissances, une particularité espagnole chez les femmes. Tous les voyageurs qui ont écrit sur l'Espagne à cette époque-là, qui ont fait donc le grand tour de l'Europe, laissent des témoignages médusés de la légèreté de ces femmes-là, qui évoquent un petit peu ce que l'on racontait il y a quelques années sur les fameuses suédoises, pour vous donner un petit peu la comparaison. On peut encore développer sur ce point-là, je pourrais vous parler des pratiques prénuptiales, du concubinage qui était courant, au point que, par exemple, dans le très catholique Pays basque, qui est vraiment une incarnation, un des bastions du catholicisme, eh bien, on ne s'offusquait pas de voir des prêtres vivre en concubinage avec des femmes et avoir même des enfants encore au début du XVIIIe siècle. Donc, je pourrais vous parler des cas de bigamie, d'inceste, etc., etc. Bref. La durée et l'ampleur du phénomène tendent bien à montrer que la dépravation des mœurs que connaît la péninsule ibérique au XVIIe siècle ne peuvent s'expliquer, ne s'explique pas seulement par la dimension économique. On met véritablement le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important. Et il s'avère que si on arrive à la question de la prostitution, jusqu'à ces dernières années, elle a été considérée comme la manifestation la plus ostentatoire, la plus perceptible, la mieux connue pendant longtemps, parce qu'elle a attiré l'œil des historiens, de ce phénomène-là. Donc, ce qu'il faut souligner d'entrée, c'est que les contemporains, de même qu'ils avaient été frappés par la liberté des mœurs des femmes espagnoles, ont été frappés par ce phénomène-là. Je ne vais pas multiplier les citations, mais juste un petit bout de récit de voyage pour vous dire que Francis Villugubi, ornithologue britannique qui est en Espagne en 1666, traduit une opinion unanime dans les récits de voyage quand il écrit, je le cite, qu'en ce qui concerne la fornication et l'impureté, les Espagnols sont la pire des nations. Une nuance, tout au moins en Europe. Bon. Tous les historiens, pendant longtemps, ont évoqué de façon plus ou moins, masqué ce phénomène-là, et maintenant on en parle somme toute assez librement, ce qui me permet dès à présent de souligner un décalage très important entre les historiens français et les historiens hispanisants notamment, de ce point de vue-là. En France, nous commençons à peine à nous lancer sérieusement dans l'histoire de la sexualité, alors que de l'autre côté des Pyrénées, c'est quelque chose qui est acquis et nous avons quand même un certain retard par rapport à ça. Alors, mesurer un phénomène comme la prostitution, aujourd'hui comme hier, c'est particulièrement difficile. Je n'ai que deux chiffres à vous faire valoir pour vous donner un élément de mesure qui est en fait tout relatif. On a relevé qu'en 1600, à Séville, qui compte à cette époque-là entre 200 et 250 000 habitants, selon les paramètres qu'on prend en compte, on aurait 3000 prostituées. Au milieu du siècle, dans les années 1670, à Madrid, qui compte à cette époque-là entre 120 et 130 000 habitants, il y aurait 30 000 prostituées. Ce qui fait que on a changé totalement d'échelle durant le siècle. Alors les chiffres, à l'évidence, ce n'est pas le résultat d'une enquête statistique. Lorsque les individus de cette époque-là donnent des chiffres, ce sont des ordres de grandeur. Ils n'ont pas l'habitude de grandes concentrations. Aujourd'hui, si je vous dis Ernest Vallon, vous situez à peu près ce que peut représenter 20 000 personnes rassemblées. Pour cette époque-là, c'est tout à fait différent. Et donc, lorsque les contemporains avancent de tels chiffres, je pourrais aussi prendre par exemple des chiffres qu'on a sur la pauvreté à Toulouse à cette époque-là, c'est pour dire qu'ils ont l'impression d'un véritable pullulement, que là c'est énorme pour eux, et donc ils disent 30 000 comme ils diraient 40. Il ne faut pas vraiment le prendre au pied de la lettre, mais ça montre bien qu'il y a une conscience d'un phénomène qui là est important. Alors, pour présenter plus en détail ce phénomène, je vous propose de le considérer sous deux aspects dans un premier temps. En effet, hier comme aujourd'hui, quand on parle de la prostitution, on parle de deux phénomènes. Soit vous avez une prostitution libre, une prostitution clandestine, plus ou moins clandestine, ou alors vous avez une prostitution légale qui s'exerce publiquement dans le cadre de ce que les Espagnols appellent des mansebias, et pour nous ce sont des bordels. Donc, la prostitution, tout d'abord, officielle, c'est celle qui est la mieux connue parce qu'elle a laissé le plus de documents et précisément parce qu'elle était réglementée. En l'occurrence, l'histoire de cette prostitution-là, elle est assez facile, donc, non seulement à faire, mais elle est assez semblable à ce qu'on pourrait voir en France et dans tous les pays européens, puisque à la fin du Moyen-Âge, la plupart des municipalités, comme ce serait le cas par exemple à Toulouse, mettent en place un bordel municipal, régi par la municipalité, qui taxe l'argent de cette activité, de cette petite entreprise, participe des finances de la ville, et pour autant que l'on sache, ça rapporte beaucoup. Donc on peut comprendre que les municipalités y furent longtemps attachées. Ça, c'est un des premiers points qui nous permet d'avoir un regard assez pénétrant, si je puis dire, sur cette prostitution-là, parce qu'elle est très surveillée, on va le voir, très très réglementée, et parfois avec un luxe de détails étonnant. Alors, les raisons qui poussent les municipalités, les pouvoirs publics, et c'est un débat qui est toujours actuel sur la prostitution. Faut-il ouvrir des maisons de tolérance ou non ? En l'occurrence, il s'agit de contrôler la prostitution, donc un phénomène qui est en train d'exploser, de la contrôler et donc de la rentabiliser, un petit peu comme aujourd'hui lorsque le fisc taxe les prostituées. On pourrait faire ce pendant-là. Donc, les mansebias, les bordels publics, on va les retrouver dans toutes les villes. Dans toutes les grandes villes, il y en a en Espagne. Madrid en aura jusqu'à 3. Mais donc ce sont des endroits très connus qui définissent par exemple de véritables quartiers dans les villes tout autour desquels il y a les prostituées qui peuvent vivre et la prostitution non officielle. Donc il s'agit en fait de trouver là un principe d'ordre public. À défaut de pouvoir l'interdire totalement, mieux vaut la contrôler. Et c'est ainsi qu'on va laisser dans ces véritables quartiers autour de ces Mansebias une certaine liberté aux prostituées, mais qui devront dès lors être visibles dans l'espace public. Comme les bourreaux, par exemple, lorsqu'ils sortent, ils doivent être immédiatement reconnaissables par toute une série d'attributs, des vêtements de couleur, des chapeaux, des plumes, des grelots, etc. À partir du moment où la prostituée veut sortir de cet espace-là, il faut qu'elle demande un sauf-conduit. Véritablement. Sinon, si elle était prise en dehors, eh bien, elle serait réprimandée et, comment dire, très sévèrement réprimandée et surtout taxée. Donc, les municipalités, quand elles réglementent ces Mansebias, elles le font sur trois points essentiels. Tout d'abord, veiller à ce que la pratique de la prostitution ne déborde pas de ce cadre spatial, c'est ce que je viens de dire. Elles essaient surtout de régir la vie à l'intérieur pour que les choses se passent relativement bien, c'est-à-dire le moins violemment possible, et ensuite de réglementer la vie des prostituées proprement dite. Bon, quand je parle de la vie intérieure des bordels, il s'agit surtout de réglementer le comportement des clients. Par exemple, il faut déposer ses armes et faire en sorte qu'à un client, une femme, pas plus, pour éviter tous les conflits qui pourraient naître à ce moment-là, et peut-être aussi garder un semblant peut-être de morale dans les relations tarifées. Pour ce qui est des autres aspects, il y a la volonté de maintenir une certaine hygiène, c'est-à-dire que normalement, un médecin va faire une visite des filles toutes les semaines, généralement le samedi, pour s'assurer que la fille est en bonne santé. Si d'aventure on dépistait une maladie, elle devrait immédiatement cesser ses activités. Pardon. Pour pouvoir exercer librement leur profession dans la Mansebia, les prostituées devaient impérativement répondre à certaines obligations. Une accréditation en bonne et due forme de la municipalité qui doit faire en quelque sorte, si je puis dire, une enquête de bonne vie et mœurs. On doit s'assurer qu'elles sont de bonnes catholiques, qu'elles sont majeures de 25 ans, ce qui visiblement est loin d'avoir toujours été le cas. Et c'est pratiquement tout. On sait aussi que, comme les comédiens à cette époque-là, elles n'avaient pas le droit d'être inhumées en terre consacrée. Donc, outre les signes distinctifs que j'évoquais, qui diffèrent d'une ville à l'autre, ces prostituées en tant que telles, pour l'instant, c'est un phénomène tout à fait classique. Le portrait de la prostituée espagnole du XVIIe siècle serait très exactement le même que celui que je pourrais vous dresser de la prostituée toulousaine du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que ce sont des filles souvent déclassées qui ont profité d'un mouvement urbain, d'un exode rural pour arriver dans les villes où elles n'avaient que leur force de bras pour travailler. Souvent, elles deviennent domestiques ou elles travaillent, elles sont couturières, bref. Surtout pour les domestiques, le moment ne tarde pas où ils finiront par se faire engrosser sous la pression de leur patron, et à partir de ce moment-là, c'est une déchéance qui les mène à la Mansebias et ensuite qui les jette dans la délinquance le plus souvent. Alors, nous avons peu d'indications là-dessus. On sait que ces filles sont généralement condamnées, comme les Toulousaines du XVIIIe siècle, au célibat, et que dans le meilleur des cas, elles peuvent faire carrière, si je puis dire, dans la prostitution, en devenant des maquerelles qui vivront donc là. Alors, la clientèle, puisqu'on en parle actuellement beaucoup de cette clientèle, elle est très peu connue, parce que pour les pouvoirs publics de cette époque-là, c'est pas un problème. Donc, on ne s'intéresse à la clientèle qu'à partir du moment où il y a un problème. c'est-à-dire lorsqu'il y a des violences généralement, et ça tombe surtout sur les militaires ou sur les étrangers de passage, des gens sur lesquels il n'y a pas de relation dans la ville. Ce sont des étrangers qui sembleraient surtout fréquenter les prostituées. On verrait la même chose à Toulouse, pour la bonne et simple raison que les gens ne veulent pas dénoncer des gens qui sont susceptibles de rencontrer, de croiser dans la ville et d'avoir des soucis comme ça, sachant que nous avons une société très violente par ailleurs, où on n'hésite pas à envoyer des spadassins pour régler ses affaires. Donc il vaut mieux être attentif lorsque on dénonce quelqu'un aux autorités. Donc, cela étant, on dispose de documents, notamment d'un journal d'un étudiant florentin qui a séjourné à Salamanque et qui a tout noté. Un document un petit peu exceptionnel, parce que quand il allait voir les petites dames, il le notait aussi, parce que ça faisait partie de sa comptabilité. Et là, on peut dire que la fréquentation des bordels, elle est courante. Et que le rapport aux prostituées est épisodique, et ce faisant que par-delà les mansébias, les nombres de femmes se prostituent. On a des prostituées qui ont pignon sur rue, véritablement, mais surtout, c'est là qu'on relève ces femmes mariées, conciliantes. On parle pudiquement des femmes enamorées. Je pourrais vous le dire en espagnol, mujeres enamoradas, qui pour améliorer l'ordinaire avec des passes. Donc, l'idée qu'il faut retenir par rapport à cette question-là, c'est que nous avons une prostitution qui est bien admise et bien tolérée par une société qu'on dépeint par ailleurs comme très catholique, apostolique et romaine. C'est le temps de la pureté de sang, etc. Donc, ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont restés sans rien faire. Grosso modo, pour aller vite dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'après avoir accepté le développement des mansébias, nous allons avoir un mouvement de repli où l'autorité royale va faire en sorte que l'on ferme ce qui est un scandale public quand même par rapport notamment à l'Église. Et le mouvement, de la même façon que les bordels publics municipaux ont été un phénomène européen, le phénomène de repli sera européen. L'influence de la contre-réforme n'est pas étrangère, mais il faut aussi tenir compte du développement de la réforme aussi, protestante, et on voit le même phénomène tant chez les catholiques que chez les protestants. Il y a, de ce point de vue-là, une différence entre ce qui se passe en Espagne et ce qui se passe, par exemple, en France. En France, le phénomène sera beaucoup plus précoce et ira beaucoup plus vite. En Espagne, par contre, on va prendre le temps. À l'évidence, il y a une réticence des, on va dire locale, qui n'est pas clairement exprimée, mais qui fait qu'on va traîner les pieds, tout simplement parce que c'est une source de revenus pour les municipalités, et que dans un pays qui connaît une réelle crise comme on peut la connaître aujourd'hui, un sou est un sou. Hein, il n'en demeure pas moins que la lutte contre la prostitution se développe, et comme en France, elle va être le fait notamment des jésuites et du parti dévot, des tenants en quelque sorte du message de la contre-réforme, qui vont militer très activement à partir du début du XVIIe siècle pour obtenir cette expulsion des femmes de ça. Donc, en fait, ça se pose un véritable problème, parce que si on interdit la prostitution, il faut trouver quelque chose pour ces filles-là. Et ce quelque chose, en France comme ailleurs, ce seront des institutions dites de refuge pour les filles qui se seraient repenties et qui auraient accepté de mener une vie un petit peu recluse, de se remettre un petit peu dans un mode de vie un peu plus normal. Ces institutions de refuge, en France comme en Espagne ou en Italie, connaissent un certain développement dans le courant du XVIIe siècle, mais ne seront jamais à la hauteur du nombre des prostituées dans chaque ville. Pour des centaines de prostituées, il n'y aura que quelques dizaines de filles repenties. En même temps, on peut comprendre que les femmes de cette époque-là aient réfléchi à deux fois avant d'entrer dans ce genre d'institution. C'est si vrai qu'une contemporaine, la comtesse d'Aulnoy, qui séjourne à Madrid en 1680, dans son récit de voyage, dresse un tableau de ses prostituées et elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Elle nous dit « Il y a des maisons destinées pour mettre les femmes qui ont une mauvaise conduite, comme sont à Paris les Madelonnettes. On les traite avec beaucoup de rigueur et il n'y a point de jour pour elles qu'elles n'aient le fouet plusieurs fois. Bon. » Et c'est une réflexion, je crois, qui vaut aujourd'hui la peine d'être méditée. Elles en sortent, au bout d'un certain temps, pire qu'elles y sont entrées. Donc l'institution, très rigoriste, n'a fait que fabriquer des fobes à leur façon. Et c'est si vrai qu'elle décrit par la suite comment ces fobes se comportent dans la rue, c'est-à-dire au même titre que des bandes de voyous qui raquettent et qui attaquent dans leur quartier où elles travaillent. S'il y a quelqu'un qui a le malheur d'entrer et de ne pas connaître les codes, eh bien, il se fait raqueter. Elle écrit à la fin « Ma parente a un page italien qui ne savait rien de la coutume de ces misérables filles. Il passa bonnement par leur quartier. En vérité, elles le dépouillèrent comme des voleurs auraient pu le faire dans un bois. Et il faut en demeurer là, car à qui s'adresser pour la restitution ?» Bon, pour conclure, on peut dire que d'une façon générale, en l'état actuel des connaissances, qui sont très inégales, il faut bien le dire, très inégales dans l'état de l'historiographie hispanique. En deux mots, grosso modo, ce qui se passe actuellement, c'est que du fait de la provincialisation et de la volonté identitaire, je suis à Perpignan, en terre catalane, je sais de quoi je parle, nous avons des historiographies. L'historiographie catalane, c'est une chose, l'historiographie castillane, ça n'est une autre, l'historiographie andalouse, ça n'est une autre, etc. Et donc, parler d'une historiographie hispanique aujourd'hui, c'est plus possible. Chaque région a des pôles d'intérêt qui lui sont propres. Bon, les Catalans se sont intéressés à la prostitution il y a quelques années, aujourd'hui, ça ne les intéresse plus du tout. Par contre, du côté des Castillans, il y a quand même des choses qui sortent un petit peu. Bref. En l'état actuel des choses, on peut donc dire qu'on a affaire tout d'abord à un phénomène d'ampleur. Tout d'abord dans le temps, on l'a vu, ça dure plus d'un siècle et demi et peut-être davantage. Donc c'est bien un trait récurrent dans cette société-là, une constante, un phénomène d'ampleur dans le temps mais aussi dans l'espace. Si on regarde les régions touchées, on peut dire que toute la couronne d'Espagne est peu ou prou touchée, à part quelques régions particulières. Ici, il y a, à mon point de vue, une grande particularité espagnole par rapport à ce qu'on pourrait faire si je faisais le même exposé sur la prostitution en Espagne et en France. En France, la prostitution, au XVIIIe siècle, où elle va renaître et exploser, elle sera toujours essentiellement urbaine. Par exemple, vous trouvez des prostituées à Toulouse, mais vous n'en trouverez pas dans les communes alentours. Il faudrait vraiment aller dans les petites villes, Carcassonne, Narbonne, etc., mais dans les autres villes, voire même, il y en a une où je cherche depuis longtemps en vain, c'est à Pamiers, il n'y en a pas. Ce qui paraît un petit peu aberrant. Alors que la particularité en Espagne, c'est qu'il y en a partout. Dans le moindre relais de poste dans la campagne, on trouve des filles. Et ça, les voyageurs le disent clairement. Et à l'évidence, quand on regarde les évolutions, les histoires des grands tours, j'ai vu un reportage à la télévision il y a peu de temps, peut-être l'avez-vous vu, sur ces grands tours des voyageurs, l'Espagne avait quand même les faveurs d'un certain nombre de jeunes gens. Et il faut dire ce qui est, c'était un véritable tourisme sexuel. Donc là, il y a clairement des choses peut-être à revoir. Donc là, nous avons une particularité espagnole que cette prostitution rurale. Enfin, nous avons un phénomène culturel de masse, un phénomène qui est ancré dans les mœurs espagnoles, qui en font une activité florissante, mais qui font aussi de la prostitution un thème littéraire important avec la célèbre Célestine et le roman picaresque. Les travaux qui ont revu un petit peu la question sur le roman picaresque réactualise cela, me semble-t-il. De la même façon, d'ailleurs, que le thème de la prostituée semble réévalué par les historiens de la littérature en France. Donc, bon, peut-être que je vous en parlerai une autre fois. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'on ne trouve pas l'équivalent dans les autres pays d'Europe occidentale comme en France. Alors, les historiens, pour l'instant, constatent le phénomène, et même s'ils le savent, pour beaucoup, on peut prendre des histoires de l'Espagne qui nous présenteront ce visage très catholique, très, très consensuel quelque part, auquel on a l'habitude, et d'autres qui soulignent la prostitution. Pour l'instant, on met en évidence ce paradoxe-là et on ne l'explique pas. Alors, la seule piste pour l'instant qui semble se dégager, la plus récente, c'est que un problème qu'on a aussi dans l'historiographie française, c'est la question de la profondeur de la contre-réforme pour l'Espagne et de voir comment le message de la contre-réforme a pu s'enraciner. Dans le cas de la France, il est clair que le développement de la prostitution se situe à Paris à la fin du XVIIe siècle. On parle pour ce Paris-là de 20 000 prostituées et il ne commence à se voir à Toulouse que dans les années 1730. Véritablement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant. Simplement, là, on commence à montrer, à voir les prostituées, à les arrêter, et elles deviennent perceptibles pour l'historien. Donc, là, on voit bien que c'est un problème d'interprétation majeur. On en est qu'au début, parce que quand on tire le fil de la prostitution, il y aura certainement d'autres éléments qui vont venir. Mais, bon. Enfin, donc, la question de la prostitution nous interpelle, parce que elle pose tout le rapport de l'histoire de la sexualité, le développement de certains phénomènes, de l'individuation de toute une série de pratiques qui avaient été mis en évidence notamment par Yves et Nicole Castan avec le développement de l'histoire de la vie privée il y a une bonne vingtaine d'années maintenant et qui étaient tombées comme ça du jour au lendemain aux oubliettes. Et voici qu'aujourd'hui on y revient et je pense que ça risque de nourrir la question. Enfin, comme je dis toujours à mes étudiants, l'histoire s'écrit et se réécrit en permanence et nous touchons la fonction sociale de l'historien qui doit répondre aux questions de la société et il est clair que nous vivons un problème très, très étrange finalement. Nous sommes dans une société saturée de sexualité où nous sommes censés être plus libérés que naguère et pourtant il n'y a jamais eu dans tous les pays d'Europe dont la France, autant de prostituées. Voici pourquoi le problème revient d'actualité. C'est un grand serpent de mer, mais il y a peu d'historiens, pour l'instant, qui soient en état de parler de la question. Il y a certes Alain Corbin, qui avait fait de grands travaux il y a quelques années maintenant, mais surtout pour le XIXe siècle, des travaux plus récents sur le XXe siècle. Mais une histoire, une véritable histoire dans la longue durée de la prostitution, nous ne l'avons pas encore. Pour l'instant, c'est un kaléidoscope.